RMC, cours numéro 1.
Bienvenue sur cours numéro 1 pour le bilan de cette journée du Rolex Monte Carlo Masters. Et j'ai à mes côtés un invité exceptionnel, c'est un ami de la maison presque. Hein. Bonsoir Valentin.
Bonsoir.
On a vécu un match de fou. Vous avez sorti le finaliste de l'an dernier, Lorenzo Musetti. Racontez-moi votre émotion parce que vous avez eu du mal à parler au micro de Marc Maurice. C'était dingue, vous étiez en larmes.
C'est les moments comme ça où tu penses un peu au passé où tu étais il y a quelques temps. Et rien qu'il y a 5 jours, me dire que si ouais, d'être au deuxième tour en battant un top 5, mon premier top 5 depuis Shanghai, chez moi sur mon central, en plus en night session, c'est tellement rare ici. Truc de fou, ouais.
C'est plus fort que la victoire contre Novak Djokovic à Shanghai parce que c'est chez vous, c'est votre central comme vous dites?
Ouais, non, c'est plus fort, c'est chez moi mon central devant toute ma famille, ma team, mes amis, mais c'est pas juste mes amis comme ça, c'est mes amis depuis que j'ai 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, mes potes du collège, mes potes du lycée. C'est pour ça que c'est tellement spécial, c'est pour ça que je les regarde tant pendant le match que je les amène à encore plus m'encourager. Donc non, c'est des moments de fou et qui aussi amènent, c'est pour ça, ouais, toute l'émotion de fin de match, c'est pour eux, c'est pour tout. Ouais.
Ça s'est probablement joué à la fin du premier time break. On vous a vu envoyer une balle à la mer. Ça joue, ça fait. Bon, vous avez récolté des sifflets parce que le public était presque italien, c'était dingue.
Le public était italien. C'est eux qui font la beauté de ce tournoi. Hein. Ils viennent en masse, ils mettent des ambiances superbes, ils remplissent les tribunes. Il n'y a plus de tickets 6 mois à l'avance. Donc non, merci à eux. Je savais très bien qu'aujourd'hui, les tribunes allaient être aux 3/4 pour lui. Mais par contre, mon côté allait être bruyant sur chaque point. Mais non, l'ambiance de fou. Oui, un petit moment où je suis allé les chercher, ça m'a détendu, ça m'a fait du bien. Un petit moment où je pensais que le tie-break me sauter un peu des mains alors que j'ai eu ces balles de 7 à 5-4 à 6-5 au premier set. Mais au final, ça m'a fait du bien. Et ouais, je prends ce tie-break et j'ai pu encore mieux jouer au deuxième set.
20 ans après, votre demi-frère. C'est fou quand même, le symbole est fort. Maintenant, pour faire mieux, il faut battre Urkacz.
Ouais, c'est vrai, 20 ans après lui, c'était en 2006. Il avait Federer, moi j'ai Urkacz. Ouais, plus qu'encore un match pour essayer de faire mieux. J'ai l'impression de reconduire l'histoire de Shanghai où match après match, on me sortait des records de Monaco et on avait fini par tout battre. J'espère que je battrai tout encore cette semaine.
Merci Valentin, bonne récup. Et évidemment, on va le retrouver jeudi en fin d'après-midi parce que maintenant c'est la tradition. Il joue en 4, rotation numéro 4. Pour jouer donc le Polonais Urkacz. On va revenir d'échanger avec Valentin Vacherot, qui est vraiment un garçon ultra disponible, même si là on n'a pas trop abusé, hein, parce qu'on aurait aimé peut-être faire plus, mais Stéphanie Natal, qui travaille pour l'ATP, nous a fait comprendre qu'il fallait arrêter là, parce que c'est vrai qu'il y a la récupération, il a un huitième de finale demain face à Hubert Urkacz. Je voulais, avant de revenir sur la journée noire des Français, je voulais quand même qu'on s'arrête un peu sur Lorenzo Musetti, qui vraiment joue de malchance. Il jouait tellement bien en Australie lors de son quart de finale face à Novak Djokovic. Je rappelle qu'il menait 2-0 et puis il avait été contraint à l'abandon pour une blessure au psoas. Et on a l'impression que ça a été un coup de frein terrible. Il a mis du temps à se soigner. Il a rejoué Indian Wells, mais il s'est fait cueillir dès le premier tour. Il était présent à Miami. Et finalement, il s'est retiré à la dernière minute pour se préserver et pour préparer au mieux la saison sur terre battue. Et là, c'est un coup d'arrêt donc pour l'Italien qui était tête de série numéro 4, qui était 5e mondial et qui va peut-être disparaître du top 10 lundi. Ça va dépendre des résultats de certains joueurs. Je pense à Bublik, je pense à Casper Ruud. Quel dommage pour Musetti qui pourtant, vous l'avez compris dans l'interview de Valentin Vacherot, a vraiment été poussé par le public, parce qu'il faut savoir qu'ici à Monte Carlo, la clientèle est très internationale et elle est surtout très italienne, puisqu'on est vraiment à deux pas de la frontière, et il a vraiment été porté par le public, mais il n'a pas pu faire la balle de 7 dans le tie-break du premier. Et une fois qu'il a cédé cette manche, on a senti quand même que Valentin Vacherot avait pris l'ascendant physiquement, parce que Valentin Vacherot, c'est un bison physiquement, c'est une bête, il a pris beaucoup de muscles, et il fait sentir à l'adversaire que Ah, tu veux me battre? Bah, il faudra passer 3 heures sur le court. Aujourd'hui, Musetti en était incapable. Donc, on va suivre avec beaucoup d'intérêt jeudi en fin d'après-midi le match qui opposera le Monégasque à Hubert Hurkacz, qui revient bien. Hein. Il était admis dans le tableau grâce à un classement protégé. Et mine de rien, il a battu Darderi et Marochan. Donc, méfiant, ce ne sera pas simple. Surtout, il faut digérer pour Valentin cet exploit monumental réalisé donc sur le rocher. Les Français, bon, parlons-en, c'est une désillusion parce qu'il y avait trois bleus qui étaient en piste aujourd'hui sur les terres battues monégasques, sur les courses annexes, hein, il n'y avait aucun bleu sur le central. Et c'est vrai que la journée a mal débuté avec la défaite d'Arthur Hindertneige contre Fonseca, défaite en 3, 7-5, 4-6, 6-3. Pour ceux qui ont vu le match, il y a eu beaucoup de frustration chez le Breton et notamment, je l'ai vu jeter sa raquette à terre parce que c'est un match qui était à sa portée. Mais il a fait preuve de peut-être de nervosité au moment crucial de cette rencontre. Parce que si Fonseca est un joueur fantastique, ça on le sait, hein, il n'a que 19 ans, je le rappelle. Je pense qu'Arthur avait les armes pour franchir cet obstacle. Donc c'est dommage parce que derrière, il y avait un match contre Berrettini à jouer, on en parlera. Petit coup d'arrêt pour Arthur Hindertneige qui vraiment... peut-être qu'il s'y voyait, il avait livré un tellement bon match contre Khachanov que pour lui, Fonseca, c'était... C'était à sa portée, mais malheureusement, voilà, c'est un match qui lui a échappé. Et Fonseca, il faut reconnaître qu'il a été très solide, justement, dans les moments chauds, notamment quand il a fallu, des balles, fallu sauver des balles d'orbage. Je rappelle qu'il n'a que 19 ans. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est sa popularité. Parce qu'on était sur le Cours des Princes, il a mis au moins 5 minutes à quitter le cours parce qu'il a tenu à signer des autographes. Il y avait beaucoup de drapeaux brésiliens, à tel point qu'à un moment, on lui a fait comprendre qu'il fallait accélérer le pas puisque Corentin Moutet et Casper Ruud étaient déjà au bord du cours, prêts à hors des coups. Donc il a fallu que le Brésilien accélère la cadence. Justement, Corentin Moutet, donc, qui a succédé à Arthur Hindertneige sur le cours des Princes, eh bien, il a perdu une belle occasion aussi, lui aussi, face à Casper Ruud, parce qu'il avait effectué un meilleur début de set. Il a mené 5 jeux à 3 et là, ça a coincé. Ça a coincé face à un garçon... on connaît ses qualités sur terre, c'est vrai que sa balle va très très vite. Et Corentin Moutet a souvent été pressé en situation de défenseur. Alors parfois il s'en sort avec des lobes fantastiques, des petits passings court croisés, des amortis. Mais au final, c'est vrai que la dimension physique de Casper Ruud a prévalu. Donc le Norvégien s'impose. Il était de série 9 ici, donc il n'a pas eu de bail. Hein. C'est sa deuxième victoire. Il a battu Popirine, a battu Moutet. Et en huitième de finale, il jouera Félix Auger-Aliassim, qui a effacé en 2 manches Marin Cilic. Ça, c'était un match qui se disputait sur le central. La troisième cartouche française, c'était Terence Atman, qui malheureusement a été éliminé en 3 manches par Thomas Etcheverry. Garçon redoutable sur terre, on le sait, hein. Il a remporté l'ATP 500 de Rio. Certes, le plateau n'était pas fameux, monumental, mais on sait qu'il avait beaucoup donné sur le plan physique. C'est un garçon qui est dur au mal. Et Terence Atman avait pris le meilleur départ, mais là encore, la perte du deuxième set, où il s'est breaké en fin de manche, ça l'a un petit peu contrarié, ça l'a fait un peu perdre sa lucidité. Et il s'est très très vite retrouvé mené 4 jeux à 0 dans la troisième manche. C'était trop. Mais bon, le bilan est quand même positif puisqu'il a remporté un match. Il va décrocher lundi prochain un nouveau best ranking. Donc on verra, ce sera peut-être 41 ou 42. Et ça fait du bien au moral parce qu'il s'est prouvé qu'il pouvait très bien jouer sur terre. J'en avais parlé hier dans le podcast. Il va avoir des points à défendre puisque l'an dernier, à pareille époque, il avait gagné 2 challengers en Asie sur dur. Donc le statut de best ranking, normalement, il n'y a peut-être pas le conserver, à moins de briller dans les futurs tournois. Mais donc, le bilan français, il n'est pas bon. Aucun bleu en huitième de finale. C'est la troisième fois que ça arrive sur les 5 dernières années. Il y a 5 ans, c'était Lucas Pouille qui avait percé. Et puis l'an passé, c'était Arthur Fils. C'est un peu ce qu'on attendait, hein. À partir du moment où Arthur Fils a pris l'option de zapper Monte Carlo, on savait que les chances françaises étaient assez minces. Mais malgré tout, on l'a constaté, il y a eu des opportunités. Ils ne les ont pas saisis, donc c'est regrettable. Et voilà, plus de bleu, donc on va s'attarder sur les stars. Mais avant, évidemment, il faut revenir sur les deux moments forts de cette journée avec l'incompréhensible 6-0, 6-0, encaissé par Daniil Medvedev sur le central en début de journée face à Matteo Berrettini, 6-0, 6-0, oui, vous avez bien entendu, en 49 minutes seulement. Un score insensé, évidemment, c'est la première fois de sa carrière que le Russe encaisse une telle déculottée. Il n'y a rien qui fonctionnait, pas de première balle, incapable de tenir la balle sur la terre battue. Alors c'est vrai que c'est sa première sortie sur terre, mais quand même, un joueur de ce standing ne peut pas se permettre de prendre deux bulles, mais voilà, il va j'espère s'en remettre, parce que tu débutes pas de la meilleure manière une saison comme ça sur l'ocre. On se souvient que lors d'un tour de Rome, il avait dit « je déteste la terre », mais on se souvient aussi qu'il avait quand même remporté un Masters 1000 à Rome, justement, donc c'est assez incompréhensible ce qui s'est passé. Et puis surtout, il y a eu une scène mythique qui fait déjà le tour du monde des réseaux sociaux, à savoir un fracassage de raquettes absolument magnifique en 6 fois, en 6 tentatives. C'était ponctué par les hollés de la foule qui encourageaient presque Daniil à remettre une couche, à fracasser sa raquette. Et une fois qu'il est arrivé près de sa chaise, il en a remis une 5e couche, puis une 6e avant de déposer délicatement sa raquette qui était mais totalement, n'était pas coupée en deux, mais pas loin, totalement brisée. Il l'a déposé dans une poubelle. D'autres joueurs l'auraient balancé dans la foule et auraient fait des heureux, mais bon, lui, il a été très poli. Il l'a déposé dans la poubelle. En général, ce genre de geste, ça vous permet de vous détendre, mais c'était à 6-0-2-0, mais ça n'a pas arrangé les affaires de Daniil Medvedev, donc il va repartir au boulot pour essayer de corriger tout ce qui n'a pas fonctionné. Mais en tout cas, c'est une aubaine pour Matteo Berrettini, parce que l'Italien, mine de rien, décroche sa place pour le tableau final de Roland-Garros. Pour lui, c'est un gros soulagement. Et ce qui est encore plus dingue, c'est que depuis le début du tournoi, il n'a toujours pas perdu le moindre jeu. Mardi, il avait bénéficié de l'abandon de Bautista Agut à 4-0. Donc faites le calcul, il a remporté 6 plus 6 plus 4 et toujours cédé aucun jeu de service. Je pense quand même que la série va s'arrêter, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, il jouera João Fonseca, match qui ne sera pas programmé sur le central, ce sera sur le court des Princes. Et puis l'autre joueur vedette qui a souffert, mais terriblement, c'est Sacha Zverev, qui était opposé à Christian Garin. Eh bien, l'Allemand s'en est sorti un peu par miracle en 3-7, 4-6, 6-4, 7-5. Quand je vous dis le score brut, comme ça, là, vous ne pouvez pas deviner que Zverev a été mené 4-0, puis 5-2 par le Chilien qui sortait des qualifs. Mais finalement, avec beaucoup de hargne, de combativité, eh bien, il s'en est sorti. Chapeau à lui, parce que vraiment, la situation était quasiment désespérée. Mais voilà, c'est un grand champion, Sacha Zverev, donc qui reste en vie. Et en 8e de finale, il affrontera Zizou Berz, qui lui a nettement dominé Andrei Rublev, un ancien vainqueur ici. Mais c'est une belle opportunité pour Zizou Berz. En plus, Zizou Berz, il n'est pas tout seul. Hein. Oui, la sensation, c'est Alexander Blok, donc sorti des qualifs, le jeune Belge, qui lui a battu Koboli et qui jouera demi d'or. Donc, on a l'intégralité de nos huitièmes de finale. Je vais vous donner dans l'ordre du tableau. Et vous comprendrez donc qu'il n'y a plus un bleu, mais il y a encore des francophones. Donc, dans l'ordre du tableau, Alcaraz Echeverri, Lechka Bublik, Vacheron Urkacz, Blox de Minor, et dans le bas de tableau, Berrettini Fonseca, Bergs Zverev, Ogier Aliassime Rude et Machache contre Sinner. Sinner qui a déclaré forfait en double. Il devait jouer avec Zizou Berz. Alors officiellement, sur le fact-check de l'ATP, c'est pour une ampoule. Bon, je pense que, et c'est un peu dommageable, je trouve que c'est tous ces joueurs de simple qui s'alignent en double et qui sont très contents de passer un tour, mais qui un peu savent très bien qu'ils ne vont pas aller plus loin. C'est dommage, parce que j'avais noté dans le tableau double que, par exemple, Albano Olivetti et Théo Imagé, les Français, n'avaient pas été admis dans le tableau parce que voilà, le cut était trop haut à cause de la présence de joueurs de simple. J'ai constaté que Harry Bagé et Olivetti sont venus à Monte Carlo en espérant rentrer un petit peu la dernière minute. Mais à partir du moment où Sinner et Berg avaient remporté un tour, tu ne peux pas les remplacer par des lucky losers. Hein. C'est WO direct. Et ça fait le bonheur de Manuel Guinard et de André Ozzi, donc qui sont directement en quart de finale. Mais c'est dommage quand même pour l'équité du tournoi. Mais c'est ainsi. C'est la vie du circuit. Il fallait être un petit peu mieux classé en simple, en classement individuel de double pour Olivetti et Harry Bagé. Ils auraient pu intégrer le tableau. Je pense qu'à Madrid, ils seront dans le tableau, parce que je pense qu'il y a moins de joueurs qui jouent le double à la Carrera Magica. Mais voilà, c'était une petite anecdote. Je vous rassure, Sinner sera d'attaque pour jouer le Czech Matchas. Il n'y a aucun doute, ce sera sur le central en début d'après-midi. Voilà. Voilà pour le bilan. Ravi de vous avoir fait partager ce ce petit bonbon avec Valentin Vacherot, donc héros du jour, salué par tous ses amis, sa famille. C'était peut-être un peu moins nombreux que les supporters italiens, mais en tout cas c'est lui qui a empoché la victoire en deux manches, 7-6-7-5. Et il est peut-être en train de nous refaire un parcours à la Shanghai, si vous voyez ce que je veux dire. Ciao, ciao, à bientôt.